RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec notre champion, le meilleur coach de France qui est là comme toutes les semaines, Johan Durand. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît.
Ça va?
Roule.
Ouais.
Ça va, impeccable.
Bon, pour pas trahir de secrets, on travaillait sur ton prochain objectif. Je viens de t'envoyer le parcours du 10 km du PSG. Un vrai chantier, bon.
Ça sera pas un parcours très plat et propice à la performance.
Ouais. Exactement.
Mais par contre, on sera à Lombes s'il fait chaud.
On sera à Lombes.
On est dans le bois de Boulogne.
Reconnaître le bois de Boulogne, tout à fait.
Et toi, on est sur ton terrain d'entraînement. Donc
ouais.
Là, t'as pas d'excuse de dire je connaissais pas.
Parfois, c'est pire, en fait, quand on connaît trop. Voilà.
Ah ouais. T'es vraiment à la maison.
Je peux peut-être trouver des raccourcis.
Ah, par contre, tu dois connaître les raccourcis. Ah,
exactement, pourquoi pas. Bon, Johan, je suis ravi que tu sois là. C'est un épisode très attendu. On va recevoir un personnage qu'on connaît très bien dans RMC Running. C'est Mehdi Frère. Mehdi qui a repris la compétition. Vous l'avez suivi après 2 années de suspension. Mehdi vient de remporter l'Adidas 10K de Paris. Mehdi est de retour. On va parler de tout ça, de cette période de 2 ans. Comment tout ça a été digéré. Comment il se relance aujourd'hui dans la course à pied. Quelles sont ses ambitions pour la suite. Donc c'est un épisode très attendu, on est ravis vraiment de l'accueillir. On aura également un bon plan d'ossard, bon plan d'ossard aujourd'hui. Les MDS Crazy Loops, c'est ce magnifique format de boucle de 1 km organisé par le Marathon des Sables. C'est dans les Alpes tout l'été, il y a différentes dates. On sera avec Cyril Gauthier, l'organisateur, et il y aura 2 dossards à gagner par date. Donc restez à l'écoute, c'est un magnifique cadeau. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Et Mehdi est avec moi dans ce studio. Salut Mehdi.
Salut Benoît, salut Yodu et bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'accueil.
Avec plaisir. Comment ça va Mehdi?
On peut dire soulagé, libéré, délivré.
Ouais, oui, bah, la reine des neiges.
C'est ça.
Okay.
Ça va super bien une semaine après la sortie de prison tant attendue.
Voilà, exactement. On aura le temps de revenir sur tout ça, tout ce que tu as traversé. Mais l'événement, je le disais, c'était le week-end dernier. Enfin, un dossard épinglé comme ça sur le débardeur, ce but de reprendre la compétition et tout de suite la victoire avec le record de l'épreuve sur le Adidas 10K. Tu peux nous rappeler le chrono d'ailleurs ?
28-11.
Chrono magnifique, Yodu, quand on voit le parcours du 10K Paris.
Oui.
Qu'est-ce que tu as ressenti tout simplement ? Alors, ce que tu as ressenti à l'arrivée, mais surtout au départ, quand tu as épinglé le dossard et que tu t'es dit « ça y est, je suis au milieu d'autres coureurs ».
Alors je suis pas de nature hyper stressé quand j'arrive en compétition, moi je prends toujours ça un peu à la légère, à la rigolade. Là pour une fois c'est vrai qu'il y avait un petit peu d'appréhension, c'était la première fois que je sortais de suspension.
Ah oui, oui.
On espère la dernière quand même.
Ah oui, oui bien sûr.
Et donc c'est la première fois que j'ai eu ce genre d'émotion, j'avais un petit peu d'appréhension, comment est-ce que le public allait percevoir mon arrivée sur la ligne de départ, est-ce que j'allais avoir des retours positifs et compagnie forcément. Et comment ça se passait de courir avec des humains après 2 ans à courir derrière un vélo.
Ouais.
Donc forcément, un moment un peu spécial, mais incroyable. Ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai eu beaucoup de retours positifs avant la course. Enfin, c'était un moment très, très cool.
Tu redécouvres des sensations ? Je ne sais pas, l'excitation, l'échauffement dans le sas de départ, quand tu te remets sur la ligne, quand le speaker dit départ dans 1 minute, tout ça, tu avais un peu oublié, ça revient vite ?
Ouais, franchement, le ventre qui bourdonne, les pulsations qui s'accélèrent et tout, le doigt sur la montre prêt à appuyer au moment du coup de pistolet, ça m'avait vraiment manqué. Quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on fait ce sport, c'est pour cette adrénaline et ce contact avec la compète et le public. Quoi.
Alors, toi seul savais dans quel état de forme tu étais, parce que c'est vrai que même sur Strava, par exemple, tu publies de moins en moins d'activités d'entraînement, en tout cas. Enfin, tu sais ce que tu as fait, la stratégie que tu as adoptée pendant la suspension. Tu savais que tu allais pour gagner ? Tu t'es dit, j'ai le niveau comme ça pour être en tête et pour aller chercher la victoire. 28-11, on l'a dit, c'est un chrono magnifique.
Je savais que j'avais le niveau. Après, j'avais pas du tout d'objectif, ni de chrono particulier, ni de place. En fait, si je voulais faire la meilleure course possible, mais surtout pour moi-même, courir avec mes sensations, voir ce que j'avais dans le ventre, parce que j'avais pas eu de repère pendant 2 ans. Donc je savais que vu les entraînements, j'allais certainement jouer devant. Après, est-ce que j'allais faire premier, deuxième, troisième, en soi peu m'importait. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire un petit peu un état des lieux, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à l'arrivée alors, quand on franchit la ligne, qu'on est premier, qu'on a gagné la course?
Bah c'est facile à dire, c'est incroyable forcément. C'est un moment que j'ai imaginé, je pense, des centaines de fois, la reprise, comment est-ce que ça allait se passer, quelle course j'allais faire au début. Et puis quand ça se passe comme ça, c'est sûr, c'est encore 1000 fois mieux en vrai. Donc c'était un kiff monstrueux. Et puis je remercie le public d'avoir été nombreux tôt le matin à Paris. Donc ça m'a
T'as été encouragé, c'est intéressant ça d'ailleurs. Quand tu as annoncé ta participation, est-ce que tu as reçu des messages sur les réseaux, positifs ou négatifs? Et est-ce que tu as été encouragé le jour J aussi?
Moi, j'ai reçu de tout, on va dire 95% de messages positifs, 5% de messages négatifs, et puis bon, ça c'était attendu aussi.
Ouais.
Mais par contre, c'est vrai que le jour de la course, je m'attendais peut-être à recevoir peut-être une insulte ou un truc comme ça, mais rien du tout, que des encouragements, et les gens étaient hyper, hyper chaleureux, donc là-dessus, j'étais très agréablement surpris.
On y pense quand on court? On se dit, où ça y est, une fois que la course est lancée
Non, c'est vrai que j'y ai pensé avant, j'y ai pensé après, je me suis dit après, c'est vrai que j'ai pas entendu d'insulte et que tout a été super agréable.
Ouais.
Mais pendant la course, non, j'étais juste focus sur rester relâché et prendre du plaisir, regarder les monuments. C'est un beau parcours quand même.
Johan, on connaît bien Mehdi, on connaît son potentiel. Hein, c'est le deuxième meilleur performeur français de l'histoire sur marathon. Donc nous, on connaît son niveau. Quand tu vois la perf, tu t'es dit, t'as été surpris du chrono quand même?
Ouais, quand même, parce que c'est pas un parcours facile. Hein. Moi, je l'ai pas fait dans ce sens-là, parce que moi, je l'avais fait il y a 2-3 ans. Donc, c'était à l'époque, on le faisait encore dans l'autre sens. On partait, on descendait les champs et on remontait Trocadéro.
Ouais.
Là, c'est l'inverse. Mais non, non, le parcours est compliqué. Et puis après deux, comme l'a dit Mehdi, après 2 ans d'absence, et que même si tu es rassuré sur les séances que tu peux faire derrière vélo ou tout ça, c'est quand même pas la même adrénaline que la compète. Et puis de sortir ce chrono-là sur ce parcours-là et en courant solo de A à Z, ouais, moi je trouve que c'est un retour plus qu'intéressant pour lui. Hein. C'est vraiment, ça veut dire que si tu le poses sur un parcours roulant, il peut courir en 27-40 sans aucun problème dans quelques semaines, quoi. Donc il peut rematcher déjà avec les tout meilleurs Français sans aucun problème, alors que après 2 ans de suspension, tu peux te dire que, enfin 2 ans sans compétition, tu peux te dire que tu vas manquer de rythme ou de, tu vois, de comme ça, d'être à la bataille. Et là, c'est pas le cas, ouais.
C'est ce qui nous inquiète avec toi, parce qu'on connaît aussi ta personnalité. On a peur de la boulimie des dossards désormais. J'espère que tu vas pas enchaîner les dossards là, les uns après les autres. Tu pars à Langueux là, parce que demain tu seras à Langueux au moment où on enregistre pour faire ce beau
À
10
Langueux,
km
parcours pas
aussi.
facile, mais grosse densité pour faire une
Exactement.
perf.
Donc là, ça sera différent du 10K Adidas. Ça aura peut-être plus de concurrence. C'est ton envie là? Tu as envie d'enchaîner les dossards?
C'est exactement ce qui s'est passé en fait quand on a commencé à préparer le
Ah,
retour.
c'est sûr.
Il a fallu me freiner. J'ai regardé
Ah,
les courses
on
qu'il y
te
avait tous les
connaît.
week-ends. Voilà, je cherchais des semi-marathons, mais malheureusement, ils se font un petit peu rares cette saison.
Eh ouais.
Mais oui, effectivement, j'ai envie d'accrocher le plus de dossards possible. Après, je vais essayer de rester un peu plus, comment dire, mesuré qu'avant. Maintenant, je suis un peu plus entouré aussi, donc d'autres personnes ont leur mot à dire sur la programmation, et
Ouais.
bien heureusement.
Ouais.
Donc, je vais me limiter à 2-3 10 km, pas plus pour la reprise, et puis après, on va se projeter plus pour l'automne, ce qui on va commencer les choses sérieuses à ce moment-là.
Comment ça se passe quand on est Mehdi frère, qu'on revient de 2 ans de suspension et qu'on demande des dossards?
Alors, bah déjà, il faut savoir que pendant les 2 ans de suspension, j'avais pas le droit d'être accompagné sur ce sujet-là, parce que normalement, c'est mon manager qui discute avec les organisations, donc là, j'avais plus de manager.
Ok.
Donc,
T'en as un aujourd'hui?
oui,
Ok.
tout à fait. Bon, j'ai repris mon même manager qu'avant,
Ok.
donc dans les mêmes dispositions qu'avant. Donc c'est lui qui va s'en occuper, qui aura la charge un petit peu plus délicate qu'avant, parce que maintenant j'arrive avec une étiquette d'athlète qui sort de suspension. Et comment ça se passe concrètement? Alors il y a certaines courses pour lesquelles c'est plus compliqué de rentrer désormais, parce que par exemple on va parler des majors marathons, ils
Ouais.
ont une politique extrêmement dure en matière d'antidopage, et eux, des athlètes qui ont été suspendus, normalement c'est pas de dossard. Après, est-ce qu'ils se
OK.
limitent aux athlètes qui ont été suspendus pour cause de dopage? Ou c'est commun à toutes les sanctions, même la mienne qui est très éloignée de problèmes de dopage. Ça, ce sera à discuter, mais par exemple, les majors marathons, ce sera forcément plus compliqué.
Parce que c'est important de le signaler d'ores et déjà, tous les passionnés de running et ceux qui adorent suivre également les résultats des élites et ceux qui nous écoutent depuis longtemps connaissent ton parcours, savent ce qui t'est arrivé. Donc cette suspension de 2 ans qui arrive juste avant les Jeux de Paris en 2024, suspension pour 3 défauts de géolocalisation, parce que c'est le système des athlètes de haut niveau. Johan, on pourra le rappeler, mais vous êtes soumis à un contrôle, vous devez être disponible 1 heure par jour, indiquer où vous dormez, comme ça il peut y avoir un contrôle inopiné qui vient vous tester, vérifier que vous n'êtes pas porteur de substances interdites. T'as pas été Jamais été contrôlé positif, je le précise, Mehdi, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent. En revanche, tu as eu ce défaut de l'école de géolocalisation 3 fois, c'est ça?
Bah, je te remercie de faire la précision parce
Ah non, mais
qu'effectivement,
ça a rien à voir, en fait.
le grand public a pas mal de mal à
Mais
faire
c'est
la
important de le dire, bien
différence.
sûr.
Eux, ils voient sanction, 2 ans de suspension, pour eux, c'est dopage.
Ouais.
Et alors, c'est 2 choses différentes. Et aussi, on peut faire la distinction avec les no-shows, parce qu'on
Oui,
entend beaucoup
exactement.
ce mot qui revient régulièrement concernant mon cas.
Ouais.
Un no-show, c'est dans le créneau d'1 heure dans lequel on est censé être à la maison et pour lequel les contrôleurs ne doivent pas avoir de difficultés. difficulté à nous trouver. Mmh. S'il se présente et qu'on est absent, c'est considéré comme un no-show. Et un no-show fait partie des manquements aux obligations de localisation, mais tous les manquements aux obligations de localisation ne sont pas des no-shows. Et moi, ce qui m'a été reproché, c'est d'autres choses que ça. Ouais. Par exemple, des no-shows, j'en ai eu absolument aucun dans la période qui m'est reprochée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un contrôleur s'est déplacé pour me contrôler, il m'a trouvé sans la moindre difficulté. Et c'est arrivé 19 fois sur la période en question.
D'accord.
Donc voilà, donc moi ce qui m'avait été reproché, c'est des erreurs administratives sur les obligations de localisation. On a pas mal de données à remplir tous les jours sur une application qui s'appelle Adams. Mm-hmm. Et en fait, si une seule de ces données, même si les autres sont correctes, est erronée ou a été remplie trop tard, c'est considéré comme un manquement. Mm. On peut avoir deux erreurs dans l'année, à la troisième, c'est la sanction. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé.
Exactement, ça peut être un changement de dernière minute de localisation, ça peut être une erreur comme ça dans les dates, quand tu as rempli, tu as dit que tu avais dormi là, au final, tu n'as pas dormi là, c'est ce genre de choses. Quoi. Alors qu'un no-show, ça peut être, comme tu l'as dit, le créneau arrive, l'inspecteur est là et toi, tu ne te présentes pas ou alors t'es pas là alors que tu as dit que tu étais là. Quoi.
Très exactement. Voilà. Si on veut donner l'exemple d'un manquement aux obligations de localisation que j'avais eu, par exemple, j'étais en stage à Font-Romeu et j'avais mis donc mon lieu de sommeil à Font-Romeu. Mmh. Et après, les autres données sur l'application étaient bonnes. Et j'enchaînais avec un stage avec l'équipe de France à Saint-Jean-de-Mont. Et en fait, j'avais changé mes données de localisation, sauf que j'avais laissé mon lieu de sommeil à Font-Romeu, donc ce qui était forcément erroné. Ouais. Donc même s'ils n'ont pas eu de difficulté à me trouver, et après j'enchaînais avec les mondiaux de route, même s'ils n'avaient pas de difficulté à me trouver parce que les autres données étaient bonnes, le fait que j'ai fait une erreur sur mon lieu de sommeil que je n'avais pas du tout modifié, que je n'avais jamais modifié pendant deux ou trois semaines, ça c'est considéré comme un manquement. Bah, ce qui est normal, mais effectivement, on est loin de l'athlète qui se cache ou qui est indisponible pour le contrôle.
Tu t'es défendu avant les Jeux, tu as espéré jusqu'au bout pouvoir participer, tu n'as pas été entendu, tu as été suspendu 2 ans. Est-ce que, avec le recul, tu te considères coupable? Est-ce que tu as commis une erreur?
Bien sûr, mais je suis entièrement coupable. Et surtout, là où je m'en veux principalement, c'est que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je vais le redire ici très clairement, les sportifs de haut niveau, on est garant de la crédibilité de notre sport. Et en fait, ces obligations de localisation, elles n'existent pas pour rien. Elles existent pour faciliter les contrôles et pour que le grand public et pour que tout le monde ait confiance dans les sportifs et dans les résultats qui voient à la télé. Et en fait, le fait d'avoir été négligent dessus, j'ai participé non seulement à entacher ma réputation, mais aussi celle de mon sport et du sport en général. En fait, si les athlètes ne sont pas sérieux et qu'ils sont pas rigoureux là-dessus, en fait, ça peut mettre le doute sur toute la pratique sportive en général. Donc c'est pour ça où je suis principalement coupable. Après, je pourrais toujours estimer que la sanction a été lourde. Elle a été de 2 ans, elle aurait pu être moindre. Parfois, des athlètes pour les mêmes choses sont sanctionnés pendant 1 an. C'est l'AIU, donc Athletics Integrity Unit, donc l'agence antidopage internationale, a estimé que c'était la sanction qui était la plus correspondante à mon cas, parce qu'ils ont estimé que j'étais un athlète expérimenté et que j'avais un haut niveau de pratique, donc j'aurais dû être rigoureux là-dessus. Au final, je ne le conteste pas. Forcément, je me suis battu et je me suis défendu pour avoir la sanction la moins lourde possible, avec les arguments que j'essaie de faire valoir. Moi, avec le recul, les manquements, je les ai commis objectivement, donc je ne peux pas, après, que ce soit une sanction lourde ou pas, je méritais forcément une sanction. Oui.
Est-ce qu'au bout de 2 ans, on apprend à vivre avec? Ou est-ce que tu es encore dans certaines étapes? Je te posais la question, tu en as parlé toi-même sur l'appréhension des premiers dossards, des insultes qui peuvent fuser, qui ne sont pas arrivées, heureusement pour toi, etc. Est-ce que tu as fini ton processus ou est-ce qu'il reste du temps, comme ça, des étapes à franchir avant de te dire « cette histoire est vraiment derrière moi » ?
Ben, je pense que la première chose à faire, c'est d'accepter que cette histoire ne sera jamais vraiment derrière moi. En fait, il y a forcément un avant et un après. Ouais. Et donc maintenant, je vais devoir... Je vais faire mon jeu préféré qui est la course à pied, mais en version un peu plus difficile maintenant. Je serai toujours regardé comme un athlète qui a eu des soucis avec la lutte antidopage. Et puis, il faut que je l'accepte. Après, le plus important, c'est que je peux me regarder dans une glace. Moi, je sais que je n'ai jamais triché. Mes proches aussi le savent. Pour moi, c'est le plus important. Après, le grand public me croira ou pas. J'espère être le plus transparent possible et pouvoir donner toutes les garanties de ma bonne foi. Maintenant, je ne maîtrise pas comment est-ce que les gens perçoivent aussi. Et puis, il y aura forcément du doute et je devrais vivre avec.
Parce qu'on sait comment ça se passe. Nous, on est un média de passionnés. Donc, les gens prendront le temps d'écouter ton histoire, tout ce qui s'est passé et remettre un peu de contexte autour de tout cela. Tu sais, comme tu l'as dit, comment ça se passe au niveau du grand public. Moi, je te le souhaite d'ailleurs, si jamais tu es sélectionné pour les JO de Los Angeles 2028 sur marathon. Quand il y aura le nom de Medifrère, on dira Medifrère qui a été suspendu 2 ans pour défaut de localisation, mais les gens retiendront suspendu 2 ans et tu devras faire face à ça. Moi, je pense même aux présentations des matins de course, parce que malheureusement, c'est la réalité, mais j'imagine les commentateurs qui feront la précision systématique. Donc, comme tu dis, il faudra vivre avec jusqu'à la fin de ta carrière.
Oui, après, je n'ai pas de souci avec ça. Hein. C'est quelque chose qui est mérité. J'ai fait des erreurs et je dois les assumer. Après, encore une fois, c'est un sport que je fais pour moi-même, donc le regard extérieur, c'est pas, j'ai pas de difficulté avec. Enfin, il est de toute façon majoritairement positif, en tout cas, je l'espère, c'est comme ça que les gens me le font ressentir. Après, le reste, encore une fois, je le maîtrise pas forcément, donc je vais me concentrer sur ce que je peux maîtriser.
Et puis après, si on reste encore une fois totalement objectif, comme je le disais d'ailleurs quand on a annoncé ta venue, on a reçu plein de messages de soutien pour toi. D'ailleurs, je t'en ai transféré quelques-uns.
Merci à toi.
Mais nous, on n'est ni juge, ni avocat, ni procureur. Nous, on fait juste confiance à la justice. Et s'ils estiment qu'effectivement, il fallait te suspendre 2 ans et que tu as le droit de reprendre la compétition, bah, on se permet de t'inviter, de raconter ton histoire. Parce que c'est toujours particulier aussi. Il y a une différence à faire entre le milieu de l'athlé et le grand public, comme tu le disais. Johan, comment t'as réagi, toi, à toute cette histoire? Je l'ai dit, on connaissait bien Mehdi. On l'a reçu plusieurs fois avant que cette histoire arrive. Déjà, quand t'as appris la suspension et aujourd'hui, le fait de le recevoir, est-ce que t'es totalement à l'aise avec ça, Yodu? Est-ce que t'as un peu de ressentiment envers Yodu, envers Mehdi? Ou est-ce que tu te dis, bah voilà, justice est passée et désormais, il faut se projeter sur l'avenir?
Non, bah, une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, il a purgé sa suspension et je pense qu'elle a été très lourde et le plus lourd pour lui, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est de louper les Jeux
Ah
Olympiques
oui, on en parlait.
à la maison, sachant qu'en 2021, Mehdi potentiellement aurait déjà dû aussi avoir une sélection
Ça, c'était une autre histoire
pour les
encore.
Jeux Olympiques de Tokyo,
Une
mais c'est
histoire de
également
créneau, de fédé, tout ça. Bon,
une
bref.
autre histoire. Et non, oui, bah moi. Quand le truc est sorti, bah c'était t'entendais tout et n'importe quoi parce que tant que t'as pas vraiment l'information de savoir, il y a des médias qui ont sorti l'information, ça fuitait que Félix Bourg allait remplacer Mehdi, t'entendais ça dans les dernières semaines, c'était vraiment quelques semaines avant les Jeux Olympiques. Donc moi je regardais ça d'un œil d'un observateur. Et après bah quand tu lis il y a eu la suspension. Après, tu lis le procès-verbal. Et c'est vrai que quand tu. Enfin, moi, Mehdi, on se connaît sans se connaître parfaitement. Tu vois, c'est pas quelqu'un que j'ai au téléphone ou à qui j'écris
Ouais, bien
régulièrement.
sûr.
Quand on se voit, on se salue, on parle un peu, on se voit à fond romeu. On a même fait des séances d'entraînement ensemble. Mais je connaissais pas l'histoire, le profond. Je connaissais pas Mehdi, savoir si c'était un mec ultra carré ou pas du tout. Et c'est vrai que bah, après, l'histoire, elle est. Tu te rends compte que bah ouais, c'est des défauts de localisation, c'est pas des no-shows, c'est pas un contrôle positif, mais il l'assume et c'est très bien. Malheureusement, ça va le poursuivre toute sa carrière. Et surtout, ce qui est délicat, ouais, c'est que ça lui a fait louper les Jeux Olympiques. Et ça, je pense qu'au fond de lui, c'est encore plus terrible que les 2 ans de suspension parce que
Les jeux à
voilà,
la maison,
c'est
t'as raison. Les
à la
jeux à
maison,
Paris, bien sûr.
c'est. Et sachant qu'il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà un premier petit imbroglio avec les JO de Tokyo
Deux
en
éditions d'affilée
2021.
des Jeux Olympiques,
Donc
quoi.
j'imagine qu'aujourd'hui, au fond de lui, s'il est clairement, s'il nous dit qu'il peut se regarder dans une glace, qu'il est totalement innocent, j'imagine la rage qu'il y a dans. Enfin, si j'étais à sa place, j'aurais une rage, mais imbattable. C'est-à-dire que là, sur une ligne de départ, après ce qui lui est arrivé, c'est un tigre, quoi, c'est un lion. C'est-à-dire que là, je pense que pour aller chercher sa place aux Jeux Olympiques, ça va être un mort de faim. Hein. Il va falloir se farder, mes 10 frères, que il faut prévenir Nico Navarro, Félix, prévenir tout le monde que
Et les
attention. Hein.
concurrents, ouais.
Si je pense que
Exactement.
voilà, enfin j'imagine qu'il doit être dans un état d'esprit revanchard au fond de lui. Ouais.
Toutes ces étapes que tu as traversées, c'était très dur dès le début. Déjà, l'acceptation de louper les Jeux. J'ai lu d'ailleurs une interview que tu avais donnée à l'équipe et à notre ami Romain Donneux où tu as dit: j'ai pas regardé une image parce que c'était trop dur. Déjà, cette première étape-là était difficile, passer la période des Jeux Olympiques à Paris.
C'était extrêmement douloureux, c'est sûr, c'est certain. Parce qu'en plus, moi, j'habite dans une ville qui accueillait
Oui,
le village des médias.
bien
Donc, en
sûr.
fait, je sortais de chez moi, on vivait Jeux Olympiques, enfin, mon unité, parce que je suis en gendarmerie.
Non, mais t'es entièrement concerné par toute cette histoire, bien
Voilà,
sûr.
tout le
Ouais.
monde travaillait sur les Jeux Olympiques.
Les
Donc,
amis ont été mobilisés sur les Jeux. Il y
bien
a eu
sûr,
des porte-drapeaux, remises de médailles. Enfin, et bien
exactement.
sûr, bien
Ouais,
sûr.
c'était des camarades à moi. Donc, effectivement, forcément, j'étais très impacté. J'ai pas pu regarder une seule image. Mon travail, ils ont eu la délicatesse de ne pas me faire travailler sur les Jeux Olympiques
Ouais.
après. Ils m'ont employé ailleurs. Et surtout, je suis parti à l'autre bout du monde avec ma conjointe pour essayer de fuir un petit peu tout ça. Mais encore une fois, oui, on parle de ressentiment, mais j'essaye de ne pas en avoir. Pourquoi? Parce que je suis forcément le seul responsable de la situation dans laquelle je me suis mise. Et j'étais le res seul responsable. Néanmoins, j'essaie de me pardonner parce que j'ai toujours fait de mon mieux. En
Ouais.
fait, j'ai toujours fait de mon mieux dans ma pratique pour lier ma pratique sportive et mon emploi en gendarmerie. Voilà, je ne suis pas un sportif professionnel, je n'avais pas d'accompagnement, donc j'essaye de me pardonner parce que j'étais tout seul et que je ne pouvais pas faire mieux en état actuel des choses à ce moment-là. J'aurais dû être certainement plus vigilant, mais est-ce qu'on peut être plus vigilant quand on fait plusieurs activités à côté, qu'on n'est pas formé là-dessus, qu'on n'est pas entouré et qu'on essaye de jongler avec plusieurs vies?
Ouais.
Je pense que c'était forcément voué à ce qu'il y ait des problématiques de ce côté-là qui seraient arrivées plus tôt ou tard. Après, c'est pas de chance d'arriver au moment des Jeux. C'est aussi parce que la surveillance était plus renforcée
Bien
sur
sûr.
les.
Tu étais considéré comme un athlète élite à surveiller particulièrement parce que ton niveau de performance t'a emmené dans cette catégorie.
2h05.
Bien sûr.
Parce que, après, alors, ça n'a pas du tout été flatteur à mon encontre, mais j'ai toujours eu ce même degré de négligence quand j'ai rempli mes obligations d'organisation. Sauf que je n'avais jamais eu de soucis particulièrement.
Ouais.
Je devais avoir un manquement par-ci, un manquement par-là, mais jamais été autant en danger. C'est parce qu'il y a eu forcément les Jeux Olympiques qui approchaient que le niveau de surveillance a été plus renforcé, donc ils se sont fait beaucoup plus attention aux moindres détails. Et c'est ce qui m'a coûté, à juste titre, ma place aux Jeux Olympiques. Ma seule consolation, ça a été que ce soit Félix Bourg qui prenne ma place. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui méritait plus que n'importe qui d'autre d'y participer. Donc voilà, malheureusement, je ne pourrais même pas dire quel classement il a fait puisque je n'ai pas regardé.
Ouais.
Mais en tout cas, j'étais...
Il a gagné.
Wow. Le champion olympique.
Au courant.
C'est bon ça.
J'ai raté ça.
Ouais.
Non, voilà, donc c'était la seule chose un petit peu qui m'a pas remonté le moral, mais voilà, bon, c'était maigre consolation.
Il y a autre chose, c'est que ça implique ta vie, ça implique la vie de tes proches aussi, parce qu'ils sont embarqués dans cette histoire et avec cette image collée et désormais qui est compliquée. Et tu fais partie d'un corps de métier où l'exemplarité est poussée à l'extrême. Donc c'est pareil, quel a été le soutien de tes proches et de ton employeur dans ces moments-là?
Alors mes proches, ça a été forcément ma bouée de sauvetage, ceux qui m'ont gardé la tête hors de l'eau. Donc sans eux, je pense que j'aurais pas eu beaucoup plus de difficultés à surmonter cette épreuve et je ne serais certainement jamais revenu au niveau auquel je suis aujourd'hui. Au niveau professionnel, ils ont été d'un grand soutien également. Alors, c'est sûr que j'ai perdu mes aménagements. Et puis, il y avait une équipe de course à pied à la gare républicaine qui a disparu à la suite de mes histoires.
Aménagement, je précise qu'il y avait une catégorie d'athlètes élites où vous aviez un planning aménagé. Tu pouvais avoir des plages d'horaires d'entraînement plus simples, quoi, aujourd'hui.
Oui, alors on avait un ou deux jours par semaine qui étaient libérés sur les périodes de l'année pour qu'on puisse pratiquer notre sport. Et en plus de ça, sur certaines compétitions, c'était considéré comme du temps de service alors que c'était des compétitions civiles. Donc, un peu moins sous l'eau que mes camarades, alors qu'on sait que les conditions de travail dans les forces de l'ordre sont toujours assez flux tendues, on va dire. Mais ce maigre avantage a été supprimé, donc forcément c'était compliqué. Mais au-delà de ça, comme j'étais parfaitement transparent aussi avec eux, ils avaient accès aux pièces du dossier, puis surtout ils me connaissent. J'ai pas eu de sanctions particulières.
T'as eu un soutien du début à la fin?
Oui, j'étais assez soutenu et j'étais très soutenu par ma hiérarchie, qui m'ont pas plus accablé que ça. Ils m'ont juste dit, écoute, c'est comme ça. Effectivement, t'as merdé, t'en assumeras les conséquences. Au niveau du travail, écoute, ça changera pas grand-chose. Demain matin, 8h30, t'es présent en rapport et puis voilà, on fera avec.
Les sponsors, comment ça marche? Là, c'est arrêt complet et net, directement dès qu'on est suspendu?
C'est arrêt immédiat, tout à fait, oui. Alors, je crois qu'il peut y avoir des cas où si la sanction est inférieure à 18 mois, il peut y avoir le maintien du sponsor ou avec des réductions. Mais dans mon cas, comme c'était une sanction qui était supérieure à 18 mois, c'est arrêt immédiat des contrats. Donc après, pareil, c'est le jeu. Moi, j'ai pas été en mauvais terme avec mes anciens partenaires qui, pareil, ont eu accès au maximum d'infos possibles. Donc, ils avaient comme parfaitement conscient de la situation, mais c'était certain qu'on ne pouvait pas continuer à travailler ensemble. Donc, je repars de zéro, absolument.
Le plus dur, c'est les réseaux ?
Oui et non. Oui et non, parce que forcément, les réseaux, on s'y attend. Alors, c'est dur au début, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire, et il y a beaucoup de non-spécialistes, il y a beaucoup de confusions qui sont faites, qui sont encore faites actuellement.
Et il y a plus de virulence.
Il y a beaucoup plus de virulence. Les gens sont beaucoup plus courageux sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est sûr.
Parce que jusqu'à maintenant, personne ne m'a jamais rien reproché.
Ouais, voilà, bien sûr.
Mais oui, forcément, on s'attendait à prendre une tempête médiatique. Il y a certains médias qui n'ont pas forcément aidé dans ce sens-là, parce qu'ils entretenaient parfois les confusions. Et oui, c'est sûr que après, quand on s'attend à prendre la tempête médiatique, on n'est pas. Alors forcément, c'est douloureux, mais on n'est pas forcément surpris. Ce qui est plus désagréable, c'est quand c'est des acteurs du métier qu'on connaît personnellement qui se permettent des remarques ou des imprécisions alors qu'ils ont parfaitement connaissance du dossier. Ça, c'est sûr que c'est un peu plus blessant.
Alors ça m'intéresse aussi. Comment ont réagi tes concurrents? Est-ce que tu as eu contact avec eux, des membres de l'équipe de France, le staff, je sais pas, les managers? Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en contact avec? Est-ce que ça a installé un froid et du coup il n'y a plus aucun contact avec toutes les personnes de ce milieu-là? Comment ça se passe? Ça dépend de chacun.
Ça dépend de chacun parce que j'ai toujours été très critique envers la fédération et l'équipe de France, notamment comment le marathon en France avait été géré. Autant j'ai rien eu à dire sur mon affaire, ils ont été parfaitement humains, parfaitement à l'écoute. Pareil, ils avaient accès au dossier, ils ont essayé de garantir un peu les droits de tout le monde pendant cette affaire qui mettait tout le monde en difficulté, moi comme les autres concurrents qui pouvaient prétendre aux Jeux Olympiques. Et c'était Romain Barras qui avait un petit peu géré le truc. Et puis lui, il a été absolument irréprochable. Il a été parfaitement humain. Il m'a écouté. Il connaissait le dossier. Donc, pas eu de soucis là-dessus. Oui, ce qui a pu être un peu compliqué. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien aussi d'athlètes, pareil, qui connaissent la situation, qui sont sur ceux qui connaissent les groupes cibles ou les groupes de contrôle, qui connaissent le fonctionnement du milieu antidopage. Pas eu forcément de difficulté avec eux. Mais ce que j'ai trouvé un peu plus compliqué, c'est quand il y a des concurrents qui s'accommodent de cette situation et qui entretiennent la confusion parce que...
Est-ce que ça arrange leurs affaires personnelles ?
Ça arrange leurs affaires personnelles. Il y a eu le cas, je n'ai pas forcément cité de nom, je pense qu'il se reconnaîtra parfaitement. Quand il y a aussi non seulement sa famille qui publie des messages diffamatoires à mon compte sur les réseaux sociaux ou son manager aussi. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Après, je veux dire... On est dans le sport de niveau.
Des personnes que tu as pu côtoyer en stage ou à l'entraînement.
Que j'ai pu côtoyer en équipe de France. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Après, je veux dire, ça reste un sport individuel. Je sais qu'on n'est pas là forcément pour être amis. Mais quand c'est fait en connaissance de cause et de façon malveillante, c'est sûr que c'est toujours plus désagréable.
Il y a cette phase des Jeux Olympiques qui est passée. Est-ce que tu as pensé à arrêter? Je t'ai dit, bon, là, 2 ans de suspension, c'est en pleine fleur de l'âge, je suis en pleine forme. Est-ce que j'arrête ou est-ce que je reprends? Est-ce qu'il y a eu cette période où tu t'es dit, bon, le jeu en vaut plus la chandelle?
Oui, bien sûr. La question se pose forcément quand il y a un choc comme ça. Et surtout, on l'a rappelé tout à l'heure, j'ai eu une histoire douloureuse avec les Jeux de Tokyo en 2021, où j'étais premier français, j'avais fait les minima.
Une fenêtre mal réglée par la Fédé, et du coup, tu n'as pas été sélectionné alors que tu avais fait le chrono.
Ils n'ont pas modifié leur sélection alors que les JO avaient été repoussés d'un an.
Ouais, exactement.
Seule sélection du monde à ne pas avoir été changée en conséquence du Covid. Ouais. Fallait que ça tombe sur la nôtre alors que... J'avais rempli tous les critères et que j'étais premier français à cette époque-là. Donc, ça ne s'expliquait pas d'un point de vue sportif, ma non-sélection, mais ça s'expliquait d'un point de vue administratif. donc, ça, on va dire que ce n'était pas de ma faute. Donc, forcément, la deuxième fois, les Jeux Olympiques 2024, c'est parfaitement de ma faute. Donc, encore une fois, histoire douloureuse avec les Jeux.
Pour dédramatiser, tu te dis qu'est-ce qui va me tomber dessus à Los Angeles ou pas?
J'en rigole tout le temps avec mes proches, je me dis jamais de
tornade, 203. Un truc, je sais pas, quelque chose.
Les États-Unis rentrent en guerre, une tornade, la canicule, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me casser la jambe. Possible. Donc voilà, donc, la question s'est posée, est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on a encore l'énergie à mettre là-dedans? Est-ce que c'est pas le moment de se consacrer sur notamment la vie de famille qu'on a mis de côté pendant des années?
Ouais, bien sûr.
Voilà, et le côté professionnel. Et puis j'ai attendu de voir, que la douleur s'estompe un peu et de voir si il y avait encore une petite braise à rallumer, voir si j'avais encore envie, si je me sentais encore capable de faire quelque chose dans ce milieu-là. Donc ça a pris du temps, ça a pris plus de 6 mois avant que l'envie de recourir reprenne.
T'as coupé 2 mois complet.
2 mois complet.
Ensuite, de basket.
Pendant, je pense largement. Et ensuite j'ai commencé à réaccompagner ma conjointe qui préparait des compétitions. Donc je courais 2-3 fois par semaine avec elle où je l'accompagnais sur ses séances. Et après, c'est revenu, je pense que c'était en mars-avril 2025, au moment d'un stage à Kenya. On avait dit qu'on allait partir au Kenya pour faire un peu un stage vacances. Et en arrivant là-bas, c'est un petit peu le pays de la course à pied. Ouais. Et puis,
trop vite des groupes d'entraînement, tu peux te comparer un peu?
Alors, problématique,
t'as pas le droit.
Pas le droit de m'entraîner en groupe, donc je me suis entraîné seul, mais c'était une période un petit peu introspective.
Okay.
Donc ça m'a fait du bien aussi de me retrouver un petit peu seul avec moi-même sur les longues routes du Kenya. Donc... c'est là où je me suis un petit peu remis en question et j'ai questionné ma pratique et je me suis demandé si oui ou non on allait repartir pour une Olympiade. Voilà.
Des questions concrètes sur ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Tu as continué à être contrôlé?
Oui, bien sûr, mais pas assez à mon goût. Alors, pour être parfaitement honnête, il y a 1 an et demi au début de ma suspension, j'ai dû être contrôlé que 3 fois. Ce que je trouve trop peu, mais après, je pense qu'ils avaient. On va dire d'autres chats fouettés, ils se sont dit athlète suspendu de côté.
On réglera ça quand il reviendra à la compétition.
Ouais, je pense que c'était un petit peu ça l'idée. Mais en revanche, c'est important de préciser que de notre côté, on a continué à renseigner la localisation comme si on était sur le groupe cible et de la manière la plus précise possible.
Oui, quand tu t'y es remis, tu t'es dit je vais être exemplaire de A à Z. Il n'y a plus rien qui est laissé au hasard. Et
là, t'as quelqu'un qui t'aide là maintenant ?
Oui, c'est ma conjointe qui s'occupe de la logistique.
Là, ça rigole pas, je peux te le dire.
Ouais, là-dessus, elle est au petit soin et maintenant, c'est absolument carré, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, donc il y a eu la première année.
Et comment ça se passe un contrôle concrètement ? C'est la même disposition que lorsque tu étais athlète ? C'est-à-dire que, pareil, contrôle inopiné, tu avais mis une heure de visite et puis la personne est venue et tu as fait un test.
Oui, tout à fait. Ou alors, des fois, ils viennent en dehors des heures de visite. Par exemple, ils sont passés hier, mon créneau de contrôle était à 5 heures, ils sont passés à 20 heures.
Ok.
Donc, voilà. Et puis sur les 6 mois suivants, je crois que je suis rentré sur les groupes cibles à partir de novembre 2025. Et là, j'ai été contrôlé. Là, j'ai été 6 fois depuis que je suis retourné sur le groupe cible. Donc, on est revenu à un rythme à peu près normal. En général, j'étais contrôlé entre 12 et 15 fois par an.
Une fois par mois.
Est-ce que le changement d'état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, tu es content de voir un contrôleur ?
Oui, presque. Mais pour la petite histoire, j'ai fait demi-tour hier. On était parti à l'entraînement avec madame et okay. Quand on est arrivé à l'entrée de la caserne, ils nous ont dit mais il y a les contrôleurs qui sont passés il y a 30 secondes, vous les avez loupés. Voilà. Bah, j'étais content de faire demi-tour et puis de pouvoir, de pouvoir faire le contrôle. Et puis, ça permet de montrer patte blanche aussi au grand public, de contrôler régulièrement. Moi, je suis content de les voir. Plus je suis contrôlé, plus mon retour sera crédible et accepté. Donc, tant mieux.
Alors, parle-nous des conditions d'entraînement drastiques lorsqu'on est suspendu. Pas d'accès aux pistes d'athlétisme. Interdiction de s'entraîner en groupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... évidemment, ça paraît évident de le dire, mais pas possibilité de mettre des dossards et d'accrocher des... Justement, de réaliser des performances officielles.
Dans d'autres fédérations, t'aurais pu, non ? Aller faire des triathlons ou des trucs comme ça ?
Alors, la question...
Parce que souvent, je vois des cyclistes ou des triathlètes qui viennent à la fédé d'athlètes...
Alors, la question se pose éventuellement pour l'Aerox, parce que c'est peut-être pas encore signataire du code mondial antidopage.
Ouais.
Mais en fait, chaque sport qui est signataire du code mondial antidopage, j'y avais pas le droit. Donc, il aurait fallu que je trouve peut-être que la pétanque, c'était jouable. Ou les fléchettes, éventuellement.
Ouais.
Mais non. Et voilà. Puis, de toute façon, on n'aurait pas pris le risque. On essaie de respecter au maximum toutes les règles pour qu'il n'y ait pas la moindre contestation possible. En fait, j'avais pas le droit d'accéder à chaque installation sportive ou lieu qui était signataire d'une façon ou d'une autre ou partenaire du code mondial antidopage. C'est-à-dire que même une compétition organisée par ma compagnie en gendarmerie, s'il était autorisé par le Centre national des sports de la défense à Fontainebleau, eux, ils sont signataires de la Fédération internationale militaire qui est signataire du code mondial antidopage. Donc en fait, par ricochet, en gros, j'avais le droit de rien faire. Donc en fait,
pendant 2 ans, t'as pas vu une piste d'athlète, par exemple.
J'ai eu une dérogation en demandant autorisation pour faire les tests annuels de l'état de forme des gendarmes. Voilà. D'accord. Et j'ai dû demander autorisation pour, dans ce cadre-là, professionnel, accéder à une piste pour faire un 3000 mètres chronométré. Mais sinon, absolument pas le droit. Et il aurait fallu trouver une piste qui était hors de tout ce système-là. Et en fait, on a commencé à demander si telle piste ou telle piste était autorisée. Les réponses qui étaient données n'étaient pas forcément claires. Donc dans le doute, pas de piste pendant 2 ans. Ouais.
Tu t'entraînais où ?
Je m'entraîne dans le parc de la Courneuve, entre Duny et Le Bourget, et puis je m'entraînais à l'Air des Vents. Donc c'est là où il y avait un festival avant, la Fête de l'Humanité. Et en fait, donc là, c'est une boucle de 1,3 km en bitume, où il n'y a pas de circulation, je faisais quasiment toutes mes séances dessus. Et en fait, je faisais mes séances de VMA sur une ligne droite en bitume métrée, comme ça, je pouvais avoir mes repères, je faisais mes 400 en aller-retour. Donc ça a été très long.
Là, mentalement, c'est du travail, Johan, hein. T'imagines tout ça, c'est... C'est particulier, il faut être motivé. Quoi.
Et après, c'est surtout de s'entraîner solo, de s'entraîner, de ne pas voir de groupe.
Interdiction de courir en groupe.
J'ai le droit de courir en groupe, mais seulement si ce n'est pas des athlètes nationaux, internationaux, qui préparent une compétition nationale. C'est ça, en fait. Mais après, c'était un mal pour un bien. J'ai pu écouter tous les podcasts RMC Running.
Ah, bah excellent.
Voilà.
Ah, bravo.
Donc voilà, j'ai pu faire tout le tour.
Ah, c'est toi. On avait un auditeur fidèle.
Ouais, c'est ça.
Donc pour ça, oui, j'ai écouté beaucoup de podcasts, beaucoup de musique. Ouais.
Okay.
Donc parfois, le temps a été long.
Est-ce qu'il y a un déclic où tu te dis, il y a l'aspect mental, je me relance, c'est reparti, et tu retrouves les sensations d'avant et tu te dis, le niveau est en train de revenir. Est-ce que ça fait combien de temps, en gros, que tu sens que ton niveau élite est revenu ? Pour faire 28-11 sur le 10K Adidas, il fallait être extrêmement solide. Ça fait quoi ? 6 mois, 1 an que tu es déjà à un niveau très élevé ?
Ouais, je pense que ça fait 1 an. Après, pour donner des chiffres, en fait, après 5 semaines d'entraînement et le retour du stage au Kenya, on avait fait un test sur 5 km. J'avais dû faire 13,57. Voilà, donc on savait qu'avec 5 semaines d'entraînement, le niveau était encore un peu présent.
Okay.
Donc on savait qu'en s'entraînant régulièrement pendant 1 an, on allait pouvoir faire des chronos qui étaient encore honnêtes. Donc oui, après, à partir du moment où j'ai décidé de m'y remettre, je m'y étais mis sérieusement. Donc je m'entraînais Sur toute l'année dernière, je suis à 175 km par semaine en
Ok.
général. Donc,
Ah oui, t'as gardé des gros gros volumes.
ah
T'es
oui,
parti de la
avec des semaines à
personnalité
plus de 200 km, ouais,
de
c'est ça. Donc après, il a fallu adapter forcément. Il y avait des semaines un peu moindres avec la densité du travail parce que je travaille, enfin, je compte pas mes heures, mais c'est en moyenne plus de 50 heures par semaine.
Alors oui, parlons de ça aussi.
Ouais.
Ton travail est très prenant en plage horaire. Parfois, tu as des horaires sur le papier et des horaires réels, donc ce qui n'ont rien à voir. Donc, il t'est arrivé de faire des séances en pleine nuit, par exemple.
Oui, c'est ça. En fait, on sait qu'on commence le matin, on ne sait pas quand on termine le soir. Donc, quand j'avais par exemple un double seuil de prévu, il m'arrivait de le faire à 4 heures du matin, le premier seuil, avant de commencer à 6h30 le travail. Et puis le soir, on pouvait finir 20h, 21h, 22h. Donc, le temps de rentrer, j'ai déjà fermé la salle de sport en plein hiver à 23h30.
Et
Quoi,
c'est encore du double seuil quand c'est 4h et 20h ou 21h?
Ah, je pense qu'on peut
Ou c'est deux
considérer.
journées différentes?
C'est ça, franchement, presque.
On est à la limite là en fait. Hein,
Ouais.
c'est pas vraiment la
Limite,
méthode
ouais,
norvégienne là.
non, c'est la méthode française et c'est compliqué encore.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et comment tu gères ça justement, la fatigue engendrée par tout ça, la fatigue mentale, la fatigue physique, la fatigue psychologique, de gérer et mener de front la vie professionnelle et la vie sportive? Est-ce que c'est ça le plus dur?
Ah ben, en survie, franchement, si je n'avais pas la conjointe que j'ai, je pense que ce serait impossible. Alors, c'est malheureusement elle qui subit un peu. On n'a pas beaucoup le temps pour aller au resto.
Ouais.
Mais en fait, tout le temps un peu disponible qu'on a, il est lié à la récupération et au sport. Donc, en fait, on n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose. Donc, c'est sûr qu'à part le sport et le travail, je n'ai pas le temps d'avoir une autre activité dans la vie. J'essaie de voir mes proches un petit peu de temps en temps quand j'ai un trou. Mais sûr que c'est très compliqué, c'est pas un rythme que je pourrais tenir dans ces conditions-là pendant plusieurs années. Là, je me suis accroché parce que j'avais la carotte de essayer de retrouver mon niveau, sortir de suspension, voir comment ça allait se passer et éventuellement essayer de me qualifier au jeu. Mais dans ces conditions-là, là, je suis en train de perdre des points de vie et c'est sûr que je pourrais pas tenir après 2028 dans ces conditions, c'est
Non,
certain.
mais ça c'est intéressant, Johan, notamment pour la reprise au haut niveau de la pratique sportive pour Mehdi. C'est qu'il y a un risque, j'imagine, à moyen terme de contre-coup. C'est-à-dire que là, tu es tout feu, tout flamme, tu remets des dossards, tu es à bloc et tu fais des perfs stratosphériques. Ce qui va être dur, ça va être de gérer tout ça jusqu'à cette fameuse fenêtre olympique. Tu vas nous parler de tes objectifs après. Mais il faut gérer toute cette période comme ça pour
C'est pas
Mehdi,
simple.
Johan.
Ouais, bah d'un point de vue psychologique, je pense que le plus dur est passé. Et
Oui.
maintenant, c'est quand même que du bonus parce qu'il peut remettre des dossards, il peut reprendre une vie tout à fait normale d'athlète. Après, la preuve qui va se présenter, c'est essayer aussi de recréer toute une synergie autour de lui avec des partenaires, avec des sponsors qui vont pouvoir l'aider à redevenir athlète pro à temps complet. Ou à mi-temps, je ne sais pas, mais pour avoir justement la capacité de se dégager du temps pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir récupérer. Parce que comme il a dit, quand tu t'entraînes à 4h du matin et à 22h, et que toute la journée, bah, tu n'as pas le temps de caler une sieste et que tu travailles et que tu es debout toute la journée, bah, en fait, tu ne récupères pas. Donc c'est vraiment très contre-productif. Donc s'il veut aller aux Jeux Olympiques et performer aux Jeux Olympiques, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui l'aident, qu'il ait des partenaires, qu'il ait des sponsors, qu'il ait de quoi vivre quoi pour pouvoir être 100% athlète. Et c'est vrai que là, ça va être la nouvelle difficulté, à mon avis, qui va trouver dans cette nouvelle carrière. Ouais.
Est-ce que le téléphone sonne déjà pour des partenariats? Ou est-ce que des anciens partenaires historiques t'ont déjà recontacté?
Alors oui, le téléphone sonne pour des nouveaux partenariats. Forcément, il y a des marques qui prospectent.
Ça va vite, hein?
Ouais, ça va vite. Et puis, je suis peut-être la bonne affaire. Je coûte peut-être
Ouais,
moins
c'était
cher
ça.
qu'avant.
Ouais, le contrat est moins cher. Crac! Ouais,
Donc
c'est
voilà,
ça.
mais après, je ne suis
Ouais.
pas non plus en guerre avec mes anciens partenaires. Et
Ouais.
comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai à peine de retrouver mon manager d'avant, vu que je suis sorti de suspension depuis une semaine. Donc c'est lui qui va commencer à s'en occuper doucement. Mais on espère qu'on va pouvoir réunir les partenaires et recommencer à structurer tout ça d'ici la fin de l'année 2026 ou début 2027,
Ok.
pour pouvoir entamer la quête des Jeux Olympiques sereinement et bien accompagné, quoi.
Dans l'idée, à moyen terme, c'est de rebasculer en athlète haut niveau élite et de te concentrer sur la course à pied sur l'année 27-28.
Alors,
Parce que
oui
moi,
et
je me
non.
souviens quand on t'avait reçu les premières fois aussi, tu m'as toujours dit que tu garderais, quoi qu'il arrive, et tu le faisais d'ailleurs, un pied dans la gendarmerie.
C'est ça,
Parce que
exactement.
la gendarmerie, tu l'auras toute ta vie. C'est ce que tu me disais, je crois, à l'époque. Et tu
Ouais.
me disais, la course à pied, c'est éphémère. Enfin, la course à pied à haut niveau, tu cours toute ta vie, je te le souhaite en tout cas. Mais tu m'as toujours dit ça. Je garde ce pied comme ça chez les gendarmes parce que ça peut m'accompagner longtemps.
Bah, je crois que le sort m'aura donné raison quelque part,
Oui,
parce que là,
c'est
il m'est
vrai.
arrivé
C'est vrai.
ce contre-coup du destin, et puis la gendarmerie a été présente pour moi, et puis c'est sûr que c'est une stabilité, c'est un équilibre pour moi aussi. Je trouve que c'est important, ce double projet. Alors forcément, ce double projet, il a un coût, forcément, ça me coûte pas mal de fatigue et c'est difficile de jongler. Mais c'est un métier passion, c'est un métier que j'adore. Et puis, j'espère aller jusqu'à la retraite. Voilà. Ouais, j'espère pouvoir dégager un peu plus de temps et retrouver un équilibre un peu plus axé sur la course à pied. Mais c'est sûr que je compte garder un pied dans la gendarmerie pour garder cet équilibre. Et puis pour rester serein dans ma pratique, parce que je ne dépends pas que de la course à pied. Je trouve que c'est aussi une force.
Oui, bien sûr.
Dans un milieu où il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attentes. Savoir qu'on a une porte de sortie constante, ouverte, c'est quand même un gros confort.
Tu as structuré le côté administratif. Le logiciel Adams, désormais, ce n'est pas toi qui le gères. Donc, on renseigne pour toi comme ça, rigoureusement, tous les jours, où tu vas dormir, où tu passeras ta journée, ta nuit, etc. Est-ce que tu as structuré ton entraînement ou est-ce que tu vas continuer à, entre guillemets, t'auto-coacher ? Tu étais avec ton ami Faustin Guigon, qu'on embrasse, qu'on connaît très bien sur RMC Running aussi et qui t'a souvent aidé dans l'entraînement. Est-ce que tu as un coach ? Est-ce que tu vas avoir un coach ? Est-ce que tu vas continuer à faire tes plans ? Comment tu prévois ça ?
En fait, oui, je structure dans la mesure où j'allais à l'entraînement le matin, je ne savais pas ce que j'allais faire. En fait, j'avais une trame très globale.
Pas très structurée.
Ça. Voilà, c'est ça. Mais j'avais tendance à faire plutôt ce que j'aimais. Maintenant, j'ai perdu un petit peu l'innocence de ma première partie de carrière avec ce qui m'est arrivé. Donc le temps commence à être compté, il ne va pas me rester non plus 10 ans de carrière.
Ouais.
Donc je me dis qu'il faut être un peu plus carré et un peu plus optimiser aussi la performance. Donc je me coach toujours tout seul, mais maintenant il y a un plan. Donc,
une planification. Quoi.
C'est ça, il y a un calendrier qui est plus établi qu'avant et on essaye de un peu d'épurer le calendrier de compétition et d'essayer d'un peu moins courir à droite à gauche,
okay.
Même si là je donne le mauvais exemple en revenant et en courant de course.
Un été plaisir quoi.
Ouais, il faut aussi reprendre du plaisir, il faut
prendre
un équilibre là-dedans aussi.
Ouais.
Mais maintenant effectivement il y a un plan qui est beaucoup plus structuré qu'avant, je fais plus que les séances que j'aime, je fais aussi ce dont j'ai vraiment besoin, même si c'est désagréable. Est-ce que je vais prendre un coach? C'est une bonne question, pour l'instant j'ai pas trouvé de coach, notamment en France, où la philosophie me convenait. Et aussi, il faut savoir qu'avec mon emploi du temps professionnel, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui, notamment qui me suit au quotidien, ou alors un coach de club avec des horaires fixes. Non. Donc, je pense que c'est compliqué. Après, je ne suis pas non plus fermé, mais pour l'instant, je trouve que c'est plus confortable comme ça. Surtout que j'ai aussi appris à me coacher tout seul et que j'aime bien aussi cette pratique où c'est une démarche de recherche personnelle et toujours un peu introspective.
Oui, tu as toujours été passionné de l'entraînement. Tu regardais ce qui se faisait, ce qui pouvait te correspondre ou pas. Et puis, comme tu écoutes RMC Running tout le temps, tu écoutes les conseils de Johan.
Voilà, déjà. Et puis, il faut savoir que j'ai inclus ma conjointe dans l'entraînement qui aussi passe des diplômes de management sportif et qui s'intéresse beaucoup à la course à pied.
Okay.
Et elle a son mot à dire. Elle, c'est aussi, elle a plus de recul que moi sur ma pratique. C'est toujours la vie extérieure qui est intéressant.
Mais c'est ce qu'on dit toujours. Johan en est le parfait exemple. Donc 20 ans de haut niveau, mais il a besoin aussi de ce garde-fou, du regard extérieur du coach pour lui dire attention, là, toi, tu pars plutôt là-dessus, mais reviens plutôt là. Une vraie discussion, un échange, un peu de contradiction. N'est-ce pas, Johan? Pour te dire, là, pour ton bien, vaut mieux que tu fasses ça. Là, tu t'inquiètes, tu préfères privilégier ça, non, plutôt par là-dessus. Ça, c'est important d'avoir un regard extérieur.
Ouais, toujours. Et surtout dans les périodes où tu as la tête baissée et où quand tu es dans une prépa, par exemple, tu n'as pas la lucidité et la capacité des fois d'analyse suffisante pour savoir ce qui va vraiment être bien pour toi sur du long terme ou tout ça. Tu as toujours tendance à foncer un peu tête baissée et justement, c'est ça le risque. Et le fait d'avoir quelqu'un au-dessus peut souvent quand même... ce mot garde-fou, c'est vraiment ça. C'est de dire attention, n'en fais pas trop. Attention, fais attention à ça. Privilégier plutôt ça, tu vois. Et ça te décharge mentalement toi aussi quand tu es dans des périodes où tu dois juste penser à borner et à t'entraîner. Ça te décharge mentalement de ne pas avoir à structurer le plan et à trop réfléchir sur ce que tu vas faire le lendemain, le surlendemain. Parce que effectivement, Mehdi, moi, les souvenirs que j'en ai, des fois, on allait à Font-Romeu, tu descendais de voiture à Matmal, ils te croisaient, ils te disaient tu fais quoi ? Tu faisais ça, ils venaient avec toi.
Non, mais souviens-toi cette semaine où il s'était tiré la bourre avec Duncan et c'était à celui qui allait plus courir. Et quand il y en a un qui faisait la sieste, l'autre il allait courir en loose day pour dire ah, je t'ai mis 5 km.
200, combien vous aviez fait de week-end cette semaine-là ?
Ce week-end-là, je pense qu'on était monté entre guillemets que à 275 km, un truc comme ça. Mais après, le jeu a continué les semaines suivantes. Il m'avait battu une semaine et puis après, j'étais monté jusqu'à 300. Hein. Et on s'est arrêté là parce qu'après, j'ai eu une inflammation de tendon d'Achille.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Le corps a des limites finalement.
Exactement. Mehdi, à moyen terme, ta distance de prédilection, ça reste le marathon, c'est l'objectif pour Los Angeles ?
Ouais, tout à fait, oui. Ouais. Après, j'aurais bien aimé faire du 800, mais je suis pas assez bon. Donc.
Ouais, d'accord. Ok. Du coup, tu seras sur du très long.
Normalement, oui.
Tu m'as dit marathon à l'automne, a priori, tu as un peu ciblé des courses qui t'intéressent ?
J'ai pas encore, encore une fois, comme c'est tout récent avec mon manager, on n'a pas encore vraiment démarché les compétitions. On sait que ça va être certainement compliqué de commencer par un major marathon. Mmh. Donc, il faudrait peut-être pas m'attendre à Berlin. Mais après, il y a d'autres courses dans cette période-là. On voulait faire un premier cycle de préparation marathon avant l'ouverture de la période de qualification. Pour déjà faire les premiers essais, les réglages, et puis ensuite.
On a des infos sur cette période marathon où il y a toujours ce flou.
Ouais, début décembre.
Ouais. Ouais, début décembre.
Ouais, c'est pas encore confirmé, hein, mais les discussions disent que la fédération voudrait entamer les périodes de qualification par le marathon de Valence.
Ah.
Donc
Valence,
ça pourrait être.
Et pourquoi pas Valence, Mehdi ? Parce que Valence, c'est un bon souvenir sportif pour toi. Je l'ai dit, deuxième performeur de l'histoire établi à Valence.
Ah, mais c'est une option, pourquoi pas.
Option,
après, si je suis prêt à l'automne, je pourrais être prêt à l'hiver aussi. Donc,
ah, d'accord. Ça y est, on repart sur des doubles marathons automne
et
automne-hiver.
Ah, ça va dépendre de comment ça se passe avec les organisations.
Mehdi, il a fait que Valence en plus.
Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Et aussi, j'ai fait que.
Mais
que
si, t'as fait Paris une année.
Non, il a fait Londres en footing. Rappelle-toi.
Oui, mais.
Oui, et Paris une année, ouais.
Ouais. D'ailleurs, je sais toujours pas comment t'as réussi à faire 2h09 là-bas. Hein. Respect infini.
Ah. Bon, méfie-toi, le parcours devrait changer. Donc, tu sais pas ce que ça va donner.
Oui, ça va être pire.
Ah ouais, bon, on sait pas.
Enfin, voilà, donc, on va repartir sur du marathon.
Ok. Langueux, c'est particulier. Tu vas croiser de la densité du haut niveau français. Est-ce que tu t'appréhendes comme ça de retrouver des anciennes connaissances ou non ? C'est pareil. Tu te dis, bon, de toute façon, c'est comme ça, l'histoire est comme ça et on verra bien ce qui se passe.
Ah non, surtout, c'est pas des personnes avec qui je pourrais être. En froid ou quoi que ce soit, enfin, en tout cas de mon côté.
Ouais.
C'est des personnes que j'apprécie et que j'admire en tant qu'athlète, donc je suis très content de courir contre eux.
Tu sais que ça peut venir, ça. Tu peux avoir des messages et finalement des personnes qui te voient dans les sas, qui se disent c'est un concurrent qui revient et qui sont un peu plus froides avec toi qu'auparavant. Quoi.
Je pense pas que les gens me considèrent comme un concurrent sur 10 km, je vais pas leur voler de sélection.
Non, oui. Bien sûr.
Mais après, moi, je suis là juste pour faire la course contre les gens et puis je suis très content de me mesurer à eux. Si c'est le top du niveau français qui sera présent. À Langueux, on le rappelle. Donc, moi, ça peut permettre aussi de me jauger par rapport au top de la discipline. Si je finis 12e et que je fais 27,59, je suis le gars le plus heureux du monde. Mais donc, je ne viens pas pour gagner la course. Je viens là pour juste m'arracher la tronche contre les meilleurs Français et aussi des gros internationaux. Et puis, prendre le maximum de plaisir. Tu
es plus fort aujourd'hui qu'il y a 2 ans ?
Je pense. En tout cas, tous les voyants ont montré que j'étais meilleur qu'avant.
Est-ce que tu as bossé différemment ? Est-ce que tu as travaillé le renfort ? Est-ce que tu as fait des choses Est-ce que tu as fait un peu moins de volume, beaucoup plus de vitesse, de qualité ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, j'ai arrêté de faire exactement ce que j'avais envie et j'ai commencé à faire ce dont j'avais vraiment besoin. Donc, j'ai travaillé un peu plus vite. Donc, j'ai fait plus de séances rapides. J'ai inclus les côtes, ce que je ne faisais pas du tout avant. Et j'ai inclus aussi la musculation, même si là, on a réduit à l'approche des compétitions. Mais,
ouais.
Donc. Oui.
J'ai vu une vidéo passer sur les réseaux sociaux où je t'ai trouvé très puissant, très fort. Alors, je pense que c'était en début de course. Là, c'est une vidéo.
T'es avec l'homme en vert ou pas ?
Sur Instagram.
Non.
Hein ?
C'était avec l'homme en vert ou pas ?
Je l'ai trouvé puissant, je l'ai trouvé fort. Ah ouais.
Gainé. Moi, j'ai vu gainé surtout.
Gainé.
Bah, t'as toujours eu une belle foulée, mais là, c'est vrai que tu paraissais très gainé sur le début.
Là, ça avait l'air tellement solide. Alors après, voilà, je pense que c'était dans les premiers kilos. Donc,
oui, c'était pas au bout de 400 mètres de course.
Mais en tout cas, tu paraissais solide et fort. Ouais, ça, c'est vrai.
La montée des champs était beaucoup moins glorieuse.
Ah oui, pour tout le monde, rassure-toi. Là, on va pas garder un bon souvenir tous de ce moment-là. Et justement, pour terminer sur l'entraînement, ça a changé. Le renfort, la muscu, c'est un élément prépondérant. Là aussi, tu as progressé de ce point de vue-là.
Oui, bien sûr. Et puis, j'ai eu du mal à l'admettre, mais on a vu des progrès, ça fonctionne.
Enfin, ah, tu vois, finalement.
J'ai toujours vécu sans, mais effectivement, en fait, ça s'est assez vite traduit sur les chronos à l'entraînement. Mmh. Donc, des fois, on se disait, non, mais on déconne complètement. Enfin, je veux dire, les chronos, c'est pas possible, on a mal mesuré. Et en fait, non, ça s'est aussi vérifié à la compétition à Paris. Mmh. Effectivement, je vais plus vite sur du secteur court maintenant, et j'ai l'impression d'être plus solide. Après, comment ça va se traduire sur marathon, on est pressé de le voir.
C'est quoi le rêve aujourd'hui ? C'est juste la qualif à LA ou c'est même des rêves, une fois là-bas, de se dire... j'ai vu que tu disais, je pense pouvoir valoir sur marathon entre 2h03 et 2h04, c'est ça ?
Oui, alors le rêve, c'est facile de dire, j'ai envie de faire une médaille. Je crois que je serai capable, d'ici un an ou deux, de courir aux alentours de 2h03, 2h04. Après, si ce chrono arrive, si ça se concrétise, effectivement, je pourrais être dans les prétendants.
2h03, c'est record de France. Enfin, tu bien peux sûr. Te rapprocher.
En tout cas, malheureusement, je pense qu'il sera sujet à descendre assez rapidement avec le lourd qui arrive en ce moment, avec Manu Lévis qui est déjà capable de s'en approcher, voire de le battre. Ouais, très impressionnant à Paris.
avec d'autres qui viendront à moyen terme, notamment Jimmy qui pourrait basculer sur le marathon.
Exactement, oui. Et puis, il y a aussi un Sud-Africain qui arrive en France avec l'ambition de courir 2h01, 2h02 prochainement aussi. Donc, je pense qu'il va falloir s'accrocher. Et aussi le niveau européen, parce qu'il y a le record d'Europe qui est presque accessible en 2h03, 2h04, mais qui va assez vite descendre avec Awani et Petros qui vont pouvoir courir 2h02, 2h03 prochainement. Donc oui, c'est des chronos que j'envisage, mais après pour viser une médaille, on a vu que le niveau avait encore passé un cap récemment. Je pense que si on n'est pas en 2h02, ce sera compliqué de
quand même prétendre. Les 2h aujourd'hui donc,
voilà, vois, voilà. Ouais. Donc voilà, donc, après j'ai pas encore spécialement de repères sur marathon, mais c'est les premiers éléments qu'on a. On pense que 2h03, 2h04 c'est envisageable.
Mehdi, si tu avais un message à passer à tous ceux qui nous écoutent, qui sont des fidèles d'RMC Running, qui t'avaient déjà entendu auparavant et bah, qui alors, soit t'ont soutenu, soit t'ont un peu attaqué. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui ?
Ah, c'est ce que j'ai dit dans une autre formulation récemment dans les médias. Bah déjà, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai lu beaucoup de messages, pas tous. Mais
c'est réconfortant quand on voit un message de soutien.
Bien sûr, ça fait chaud au cœur, oui. Et ça contrebalance les messages négatifs que j'ai reçus. Et à ceux-là, je n'ai pas forcément de ressentiment. En fait, je ne leur en veux pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui se posaient sincèrement la question aussi, ou qui ne connaissent pas, qui n'arrivent pas à faire la différence. Certains ne veulent pas la faire non plus. Et ceux-là aussi, j'essaie de ne pas leur en vouloir. C'est comme ça. Et je n'arriverai pas à les convaincre de toute façon. Donc on va dire que je leur pardonne, j'essaie de ne pas porter le poids de ce ressentiment et puis c'est comme ça. Et donc voilà, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a quand même 95% des messages qui ont été positifs et qui m'ont soutenu. Donc c'est à ceux-là que j'ai envie de m'adresser et je les remercie profondément. Et c'est aussi ceux qui m'ont donné envie de recourir, parce que je me suis dit qu'il y avait encore des gens que mes performances intéressaient et à qui ça pouvait apporter un peu de soutien. J'ai reçu pas plus tard qu'hier le message d'un ami qui était allé à l'hôpital et qui m'avait dit que ma course de ce week-end lui avait fait beaucoup de bien et beaucoup de réconfort. Donc c'est aussi à lui que je vais penser ce week-end. Je sais qu'il y a des gens qui regardent mes résultats et à qui ça apporte un petit peu de plaisir. Donc, donc forcément, voilà, ça me fait chaud au cœur.
Merci à tes proches, tu l'as déjà dit, mais forcément, ils ont eu un rôle prépondérant dans toute cette histoire.
Bah, sans eux, c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui à discuter avec toi et avec vous tous. Bien sûr, l'entourage d'un athlète, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui dure dans le temps et qui réussit ou qui arrive à sortir la tête de l'eau et puis ceux qui abandonnent. Moi, j'ai eu un entourage qui a été hyper présent et qui a été absolument incroyable. Donc, j'espère que ça continuera comme ça. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que sans eux, je ne serais pas là.
Autre chose, tu as été suivi pour un doc pendant cette période, la fin de période de suspension. Est-ce que tu veux en parler ?
C'est ça, bah, j'attendais l'occasion de glisser. Oui, donc pour suivre l'actualité et puis pour suivre la fin de la suspension et pour les projets à l'avenir, donc il y a un documentaire qu'on a pu apercevoir un petit peu en teaser récemment et qui sortira, alors c'est flexible, le premier épisode peut-être à la fin du mois, peut-être début juillet. Et ensuite, il y aura peut-être plusieurs épisodes qui vont suivre jusqu'à la quête olympique. Et qui sait, peut-être plus loin encore.
On l'espère. Bon, on l'espère pour toi, en tout cas, Mehdi.
Donc, je remercie Rémi Lévesque, surtout pour le travail incroyable qu'il fait et pour sa disponibilité.
Le message est passé. Et tout de suite, on passe au bon plan Dossard.
RMC, le bon plan matos.
Et Yodio va recevoir un ami d'RMC Running, c'est Cyril Gauthier, le responsable du fameux et mythique Marathon des Sables qu'on avait mis en avant dans RMC Running. Salut Cyril.
Hey, salut les gars.
Sois le bienvenu Cyril. On est content de te retrouver pour mettre en avant l'autre format du Marathon des Sables avec votre concept génial. On en avait parlé lorsque tu étais venu, on voulait vraiment en reparler aujourd'hui. Le système des Crazy Loops, donc ces boucles organisées dans les Alpes, une épreuve incroyable d'endurance, il faut faire le maximum de tours pour aller au bout de soi-même. Et les étapes vont bientôt démarrer, Cyril, tu dois être dans les starting blocks là.
Ah oui, là on est dans les préparatifs puisqu'on attaque Courmayeur dans quelques jours et puis on enchaîne après quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours avec La Rosière, Morzine-Avoria, Courchevel et Val d'Isère. Donc là oui, ça se rapproche très très vite.
Est-ce que j'ai bien résumé le concept ? C'est ça l'idée ? Tout le monde s'inscrit ? Vous avez une boucle ? Quelle est la distance des boucles d'ailleurs, Cyril ?
Alors la distance grosso modo c'est entre 4 et 5 km en fonction de la topographie et des stations. Ouais. Les Crazy Loops, tu l'as bien résumé, la chose la plus importante c'est que tu peux faire t'essayes de faire le plus grand nombre de boucles que tu peux, mais tu as aussi une liberté totale. C'est-à-dire qu'on a des concurrents l'année dernière qui ont fait une boucle et d'autres qui en ont fait 15. Donc les Crazy Loops, les MDS Crazy Loops, c'est vraiment le concept où tu te dis attends, pour certains la limite pour eux, l'ultra running, bah, c'est peut-être faire 3 boucles parce qu'ils sont peut-être en surcharge, t'en sais rien. Et pour d'autres, bah, c'est en faire 15 ou en faire 20. Donc c'est vraiment un esprit de liberté. On impose beaucoup, beaucoup de contraintes sur les MDS dans le désert. Les MDS Crazy Loops, c'est vivre la montagne sans avoir peur de se perdre, aller chercher un effort, mais surtout être suivi et encouragé par un staff Marathon des Sables qui est là à tes côtés. Et puis tu vis une aventure le jour. Et derrière, tu vis une aventure extraordinaire la nuit en essayant d'être effectivement dans ton trip et tu découvres le bonheur de sécréter des endorphines et d'être drogué légalement.
Exactement. Ça facilite les contraintes, Yodu, ce système de boucle. Rien que d'un point de vue du ravitaillement, c'est beaucoup plus sécurisant. Et on l'a dit, tu ne peux pas te perdre vu que la boucle, tu la connais au bout d'un passage. Le concept est génial, hein, Johan.
Après, ce qui est dur, c'est de revenir et de ne pas s'arrêter. Tu vois, tu reviens, c'est comme quand sur un marathon, tu passes devant l'hôtel et que tu es au 35e, c'est le piège.
T'as raison.
Non, mais mental. Alors ça, c'est un autre combat psychologique, parce que quand tu t'arrêtes au resto d'altitude, que tu bois, même tu peux même voir une boisson fraîche, manger et y retourner, quand il est 2h du matin, il ne faut pas oublier que la boucle, elle a été imaginée, parce que le MDS Crazy Loops, sa priorité, c'est l'inclusion, et on y intègre des équipages handy qui sont en fauteuil tout-terrain.
Il y a de belles images d'ailleurs, allez voir sur les réseaux.
Voilà. Et ça, c'est la force, c'est tu te dis, waouh, j'arrive à contrôler médicalement une boucle pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et puis, comme tu le disais, effectivement, la difficulté parfois, c'est tellement facile de s'arrêter et de se dire, allez, je verrai ce que ça donne dans 2 heures, et tu peux même te coucher sur le bivouac. Donc, ça, c'est un petit truc que tu n'as pas en ultra, où tu n'as pas de coin, où tu as une tente avec quelqu'un qui te sourit en te disant, viens te coucher.
Ah bah, je vous livre une expérience personnelle. Une année, j'ai fait le marathon de Paris avec mon père. On est passé devant l'hôtel au 30e, il s'est arrêté. Il a dit, j'ai pas arrêté. Psychologiquement, je me suis dit, bon, allez, tant pis, c'est terminé. Quoi.
Ça veut juste dire que tu as un père intelligent. Il faut quand même être un peu marbré pour quand tu passes à côté de ton hôtel, tu as mal partout pour continuer.
Exactement. Comment ça se passe concrètement, Cyril? Tu choisis ta durée d'effort, c'est ça? 3h, 6h, 9h, 12h ou 24h, c'est ça?
Exactement. Tu choisis ta durée et à l'intérieur de la durée, tu n'es contraint qu'avec toi-même. C'est-à-dire que personne ne va te dire, là, tu n'as pas le droit de faire une pause. Si tu t'inscris sur le 3h et que tu fais 2h de pause, c'est ta vision, ton problème, c'est pas nous qui allons te pousser. Par contre, nous, on va essayer de t'encourager à aller toujours, toujours, toujours plus loin.
Ouais. Voilà, donc tu pars sur une durée et tu essaies d'aller au maximum de tes capacités. Quoi.
Exactement.
Est-ce qu'il y a l'erreur classique de ceux qui partent à fond et qui le payent au bout d'un ou deux tours?
Alors là, si tu veux, t'as beau dire au micro, on va se calmer, 24 heures, c'est très très long, ça part comme des fusées, tu dis, tiens, c'est marrant, ils n'ont pas vu qu'à 15 km/h, ils ne tiendraient pas. Donc, c'est vraiment très très amusant. Et les handis font exactement la même erreur. On est vraiment sur le classique de toutes les courses où c'est les hormones qui parlent au début. Il y a une excitation totale. Et après, par contre, ce qu'il n'y a pas sur les autres courses, c'est qu'il y a une convivialité qui s'installe. Et puis, il y a des gens qui vont faire des boucles en parlant, en discutant, ce qu'on trouve dans le désert. Et là, tu vas rencontrer du monde. Tu as des nationalités différentes. Et là, tu es dans une course, effectivement. Tu es dans l'ultra, mais tu es dans un partage. Tu n'es plus du tout dans la même logique.
Ce qui est génial, c'est aussi la beauté des paysages. 5 massifs différents. On le disait, Courmayeur du 19 au 21 juin. Ensuite, ce sera au mois de juillet, La Rosière du 17 au 19. Morzine-Avoria du 24 au 26 juillet, Courchevel du 31 juillet au 2 août, et puis vous terminerez à Val d'Isère du 21 au 23 août. D'un point de vue des spots aussi, pour les touristes et les passionnés de montagne, là, ils seront servis aussi. Hein.
Bah, disons que les boucles sont designées pour te montrer les endroits sublimissimes. Donc, tu vas t'y rendre en benne pour nos bivouacs vont être à des endroits stratégiques où quand tu es de ta tente, tu vois des vues de fou. C'est des vues désertiques. Et effectivement, que tu sois français, tu connais pas ces spots-là. Mmh. Que tu sois étranger, tu découvres le plus beau des Alpes et on est super heureux parce que là, il y a en plus de la France, il y a aussi l'Italie.
C'est difficile comme question, Cyril, mais s'il y a un spot à ne pas manquer, tu conseillerais plutôt lequel, pour ceux que ça intéresse?
Alors, tu veux que je me fâche avec 4 stations sur 5,
oui,
en fait?
Oui, oui. Non, mais on va le faire autrement. Donne-moi les particularités des différentes stations et spots, justement, utilisés et parcourus.
Ok, alors je peux parler, la beauté si tu veux, Courmayeur a une force incroyable, c'est effectivement très très beau, et surtout quand tu manges italien dans les Alpes, c'est un rêve absolu.
Ah ouais.
Alors il faut pas que la Vallée d'Aoste, enfin les autres, ceux qui ne sont pas en Vallée d'Aoste m'en veuillent, mais vraiment tu manges très très bien en Italie, ils sont souriants, et l'endroit est sublime. Après la Rosière, c'est une station qui est en balcon, donc c'est une des stations les plus ensoleillées de France, tu as une vue sur le massif et sur la partie Tignes-Val d'Isère absolument sublime. Bon, après, évidemment, Courchevel, pour moi, c'est particulier parce que j'aurais imaginé que cette station s'implique à ce point dans la Clusion, nous apporte autant d'aide, autant de puissance, autant de machin. Donc, ouais. Ils veulent faire du MDS Crazy Loop, c'est un moment marquant de la saison. Donc, cette année, il y aura énormément de surprises pour les coureuses et les coureurs. Donc, ça va être un peu incroyable et magique. Et donc, il y aura vraiment des grosses surprises. Après, Morzine-Avoria, c'est quand même quelque chose, c'était un peu avant Courchevel, pardon. C'est une station qui est sublime parce qu'elle vit beaucoup l'été avec, il y a à la fois des gens qui s'entraînent, il y a des familles, donc il y a une mixité qu'on retrouve pas automatiquement sur les autres, hein, parce qu'une station comme Courchevel vit beaucoup moins l'été qu'un Morzine-Avoria. Et puis après, il y a la mythique Val d'Isère avec le côté hyper engagé. Donc là, on est dans un endroit de dingue, avec un lac autour de sommets fantastiques. Tout est engagé à Val d'Isère. Donc là, on est dans le côté ultra sportif engagé. Et je ne peux pas dire que je n'apprécie pas Val d'Isère, puisque c'est la station où je vais depuis que je suis tout petit. Bon, maintenant, je suis obligé d'aller skier dans plein d'endroits différents pour me fâcher avec personne. Mais
là, t'as été bon, là. Là, t'as été bon. Politiquement, t'as été
bravo.
Fort.
Bravo. C'est bien vendu.
Non, mais hey, les gars, j'ai eu un hiver compliqué parce que j'ai skié sur toutes les stations. Et comme je l'ai dit, pour la première fois de ma vie, je découvre des endroits de dingue avec des gens qui s'occupent de moi et en plus qui m'offrent le forfait. Donc, je suis le plus heureux des hommes.
Magnifique. Et félicitations. Et on te remercie beaucoup, Cyril, déjà pour cette belle initiative. Si vous êtes passionné de montagne, de trail et d'aventure, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces Crazy Loops. On vous a donné les dates, on va vous les redonner sur nos réseaux sociaux. Et on te remercie surtout parce que tu offres 2 dossards par date. Alors, pas pour la première qui va arriver du 19 au 21 juin parce que ça vient trop vite et ça n'aurait pas de sens.
Ouais.
En revanche, dès la deuxième date qui arrive à La Rosière, ensuite à Morzine, à Courchevel et à Val d'Isère, 2 dossards à gagner grâce à RMC Running et grâce à Cyril qui nous permet d'avoir ces 2 dossards. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur Strava, le club RMC Running, ou sur Instagram également. Vous participez au tirage au sort, vous indiquez l'édition qui vous intéresse, la station qui vous botte, et comme ça vous pouvez participer. Cyril, merci beaucoup d'avoir été avec nous, bon courage pour l'organisation désormais.
Eh ben, un grand merci à vous les garçons, parce que c'est toujours un plaisir d'être dans vos émissions, c'est top, et continuez.
Eh ben, plaisir merci. Partagé, tu reviens quand tu veux et bon courage pour l'été chargé qui t'attend. Merci Cyril.
Merci, ciao, bye.
Et un grand merci à Mehdi Frère qui est venu dans ce podcast RMC Running. Merci Mehdi d'être venu, merci pour ta franchise.
Merci à toi pour l'accueil surtout. Merci
avec plaisir.
Pour m'avoir donné la parole.
Et avec plaisir, tu as pu raconter ton histoire, parler de ce qui t'est arrivé, de la façon dont tu vas rebondir après ça. On vit tous des épreuves de vie et c'est important de se relancer. Grand merci au maître Yodu, merci Johan d'avoir été
merci
là.
Merci à tous.
Et puis toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.